On va vous présenter un livre qu'on a créé, qu'on a mis en page, qu'on a photographié d'une ville qui s'appelle Épinal. Alors, l'idée qui nous est venue d'Épinal, c'est un peu une idée un peu bizarre qui fait qu'on remonte cette idée à peu près 14 ou 15 mois. Je suis arrivé à Épinal en février 2015, rencontre amoureuse. Première vision que j'ai eue d'Épinal, je vous dis, ça n'a pas été forcément une très belle vision. Au mois de février, il faisait froid. Enfin bref. Et au fur et à mesure du temps, cette spinalienne m'a fait découvrir sa ville, son terroir, son passé culturel qui est quand même assez exceptionnel, et plein de choses. Et l'idée a mûri qu'à un moment, je me suis dit, tiens, peut-être qu'en venant la voir plus souvent, je vais peut-être pouvoir créer quelque chose un peu différemment que ce qu'on peut créer. On a discuté, on a parlé, j'ai visité, voilà. Je suis un peu déçu de ne pas avoir rencontré M. Grasser avant. Ça, c'est pas grave. Il est là maintenant. Donc, voilà. Et de là, on a créé un concept. En fin de compte, on a créé un concept un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on veut présenter des villes d'une manière un peu plus imaginaire. D'accord ? Et Épinal a plein de choses à découvrir. Et on l'a fait. Alors, on l'a fait avec nos moyens, on l'a fait avec nos envies, voilà, et c'est, finalement, on a donné naissance à un livre, voilà, qui est pour moi un livre réussi. Les photos sont magnifiques. On a été dans une période qui n'était pas très simple, parce qu'avec Chanel, on est arrivé au mois de mars, et au mois de mars, photographier une ville, c'est pas très simple. La météo, enfin, je vous en passe, hein, voilà, n'est-ce pas ? Donc voilà. Mais en fin de compte, on avait fait un travail approfondi en amont. On avait un cahier des charges qui était très bien établi. Donc on savait où on allait. Et l'œil du photographe a fait qu'à un moment, on l'a laissé faire. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a amené sa patte. D'accord ? Alors moi, j'étais derrière, hein, je courais. Hein. Donc voilà. Mais c'est lui-même qui a amené sa patte. Et en fin de compte, au fur et à mesure du temps, des heures de travail, quasiment jour et nuit, hein, parce qu'on a travaillé la nuit pour faire de la photo, on a été dans des endroits très particuliers, on nous a ouvert les portes, on a vu plein de choses que certainement plein de spinaliens n'ont pas vues et qui verront au fur et à mesure du livre. Voilà, donc pour moi c'était une très belle expérience. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus, ok. Donc je vais faire intervenir Monsieur Grasser qui va discuter, après Chanel, et puis après vous prendrez la parole aussi. Voilà.
Vous voulez que je cause ?
Oui.
Oui, alors ce que je crois d'abord, c'est effectivement la rencontre de l'œil du photographe avec un espace qu'il ne connaissait pas auparavant, et ce qui nous change effectivement de notre regard personnel, puisque nous, on est plus ou moins intoxiqués par nos paysages, on regarde toujours un peu les mêmes choses. Et pour vous donner un exemple, moi qui vais très souvent au château d'Épinal pour les travaux de consolidation, etc., on finit par ne plus voir finalement ce que voient les gens pour la première fois. Et le grand problème, et que j'ai aussi d'ailleurs, puisque moi je suis universitaire en histoire, le grand problème, c'est effectivement de trop maîtriser un sujet par rapport... aux étudiants qui découvrent finalement tel ou tel site. C'est très compliqué. Donc il faut arriver à se remettre finalement au niveau de celui qui découvre, donc l'œil du photographe venant de l'extérieur, pour essayer d'expliquer effectivement un paysage. Et un paysage qui est souvent aussi un paysage virtuel, c'est-à-dire que derrière ce qui est solide, derrière ce qui est bâti, on a aussi... parfois des siècles qui se sont écoulés, avec des milliers de personnages qui ont vécu, qui sont passés là. Et je crois que ce qu'il faut que l'on essaye de faire découvrir, c'est justement le regard de ces milliers de personnages du passé qui ont été les acteurs de cela. Moi, je le dis souvent, quand je fais visiter en un petit musée historique, dans lequel il y a l'essentiel des objets qu'on a retrouvés dans les fouilles archéologiques qu'on a fait depuis presque 40 ans ici à Épinal, et on a des objets qui sont très modestes. Ça va être un morceau de verre coloré, ça va être une broche, ça va être une épingle à cheveux, etc. Seulement, tous ces objets ont été fabriqués. Ils ont été fabriqués dans un objectif généralement assez précis. Et ils ont été souvent transportés, ils ont été achetés, ils ont parfois été offerts. Je parle des bagues, par exemple. Ils ont eu une vie et puis après, ils ont été oubliés et on les a retrouvés dans la terre, des siècles après, quelquefois. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire revivre. On a par exemple, on avait des verreries, par exemple, tout près d'Épinal, dans la forêt de Darnay. On avait des dizaines de verreries qui ont fonctionné à la fin de l'époque médiévale. Ces verreries ont fabriqué des verres différents. Ils ont inventé le verre de couleur, par exemple, que l'on a vendu aussi aux Vénitiens ensuite. Et donc, faire revivre tout cela, c'est effectivement se remettre dans l'espace, dans l'espace-temps et l'espace géographique de ces verriers, de voir les voyages qu'ils accomplissent pour aller vendre des brevets de fabrication avec l'aval des Ducs de Lorraine et d'arriver à faire revivre cette époque-là. On a les objets, on a l'espace, on a les restes archéologiques de toute cette affaire, mais mon rôle en tant qu'historien, c'est faire intervenir l'humain, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse savoir qui venait là. Moi, j'ai souvent, quand je présente Épinal dans les conférences, quand on veut faire revivre l'Épinal médiéval, par exemple, il faut essayer déjà de faire abstraction de tous les bâtiments plus récents, d'essayer d'abaisser aussi toutes les toitures, de rehausser l'église, de rebâtir le château sur sa colline et de dire, si j'arrive depuis le sud, le nord, l'ouest et l'est, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Quels sont les bruits que j'entends ? Parce qu'évidemment, c'est plus du tout ça, c'est plus du tout les bruits d'aujourd'hui. Et on a, jusqu'au 19e siècle, d'ailleurs, on a des descriptions qui nous donnent en particulier ces bruits, ces odeurs de cette époque-là. C'est ça qu'il faut essayer de faire revivre, et c'est là où on a effectivement une image qui essaye non pas d'être fidèle et de coller à la réalité, mais au moins de s'en approcher et de s'approcher de tout ce côté, de tout ce côté humain. J'ajouterai que si on parle d'image, on va parler quand même un mot d'image populaire, l'image d'Épinal, les imagiers autrefois, la plupart du temps, ils interprétaient ce qu'ils faisaient. Enfin, tous les feuilles de saint, personne n'a jamais rencontré les Saint-Jacques, comme moi, on a rencontré moi, mais pas les autres. On n'a jamais rencontré les contes et légendes que l'on a mis en image. Même les images événementielles, ce sont des images qui ont été fabriquées à partir de récits. Par exemple, la guerre de 1870, ou les guerres de Napoléon, c'est des récits qui ont permis de reconstruire une image, généralement une image tout à fait avantageuse pour le parti qu'on a pris. Et on voit d'ailleurs en Allemagne des imagiers qui donnent exactement l'image inverse de celle que l'on trouve en France. Les seules images qui finalement peuvent avoir un certain caractère, disons, d'authenticité par rapport à un personnage, c'est les images officielles où on va avoir des souverains, des images, des séries de Napoléon, des séries de rois, des séries de présidents de la République, même des séries Napoléon III, par exemple, le portrait officiel, l'empereur en image d'Épinal. Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Tout le reste, c'est de l'interprétation, y compris pour les couleurs, etc. Donc c'est assez... l'image même, l'image d'Épinal, il faut la remettre dans son contexte. Et puis la prendre pour ce qu'elle est, d'ailleurs, avec sa beauté là-dessus, mais pas lui donner un caractère d'authenticité sur le fait divers qu'elle n'a pas. Et en ce sens, l'image des souverains, ça rejoint un peu ce qu'on a en numismatique quand on a les profils de souverains sur des pièces de monnaie, où là, on peut être sûr que l'on se rapproche effectivement d'une certaine réalité. Vous connaissez l'histoire de l'arrestation de la famille royale à Varennes, après avoir été reconnu à Sainte-Menehould, et a été reconnu parce que le maître de poste l'a comparé avec une pièce de monnaie qu'il avait dans la poche, et qu'il a vu que ce gros personnage qui engloutissait une énorme omelette était probablement le roi, alors que personne ne savait que le roi était en fuite. Bon, moi, j'en ai terminé pour l'instant. Voilà.
Donc, je vais passer la parole à Charlotte. Juste vous dire qu'on est une maison d'édition qui... On vient de Chinon, d'accord ? Donc, c'est important aujourd'hui de vous dire ça, c'est qu'on vient de 600 km. Donc, notre œil extérieur, ce que disait Jacques tout à l'heure, on a une discussion, c'est quand on fait un ouvrage d'une ville, on le fait d'une manière, on ne connaît pas la ville, d'accord ? Et le patrimoine d'Épinal est assez exceptionnel par rapport à ce que nous, on a. C'est-à-dire que nous, on a le Val-de-Loire, on a plein de patrimoine, on est très riche en patrimoine. Vous connaissez, hein ? Donc, la différence, c'est que quand je vois vos infrastructures aujourd'hui, comme une ville comme Épinal, si on compare à une ville chez nous comme Saumur, c'est juste énorme ce que vous avez, hein, entre les théâtres, les BMI, les patinoires, vous avez vraiment une infrastructure exceptionnelle. Donc c'est une chance quand même. Hein. Donc voilà.
Du coup, la question qui s'est posée aussi, c'est par rapport à ces images, c'est comment les associe-t-on à du texte ? Alors j'ai vu qu'une partie de ces textes étaient des textes entre guillemets historiques, des citations d'éléments historiques, mais vous avez demandé à Charlotte, à qui je vais céder la parole, de faire un travail de restitution par le texte de ce qu'elle entendait ou de ce qu'elle voyait en regardant l'image. Et tu as travaillé comment ?
Alors, d'abord je vais juste faire une précision. À Saumur, vous n'avez peut-être pas la BMI, mais vous avez les chevaux, vous avez le cadre noir quand même. Non, ce qui est quand même une chance.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Saumur est une ville exceptionnelle en termes de patrimoine. Mais c'est vrai que quand vous allez dans des villes comme Épinal, la première vision que vous avez d'Épinal, elle est sûre, c'est pas une vision exceptionnelle. Mais à l'intérieur des choses, quand vous rentrez dans Épinal et quand vous voyez toutes les infrastructures qui ont été mises en place, c'est très très bien. Voilà.
Donc, comment j'ai travaillé ? En fait, tout simplement, moi, c'est un travail d'interprétation. C'est-à-dire que Jacques disait tout à l'heure que, même en tant qu'historien, le travail d'historien est un travail d'interprétation et de reconstitution. D'une certaine manière, je dirais qu'une photographie va être aussi une interprétation du réel. Ce que j'ai essayé de faire avec les textes que vous trouverez dans l'exposition qui est à l'extérieur, là, c'est en fait une interprétation imaginaire dans le cadre des imaginales. Donc je me suis laissée effectivement happer par les photographies de Chanel. Je participe au festival depuis quand même pas mal d'années. En plus, j'ai eu le privilège d'aller visiter le château d'Épinal, aussi la tour chinoise. Et aussi, voilà, d'être un des coups de cœur d'Épinal et auteur associé aussi. Mais en fait, c'était vraiment d'essayer de restituer aussi un esprit imaginaire, enfin des imaginales et imaginaires, m'attacher aussi au thème de cette année qui est révolution. Donc voilà, d'essayer de transcrire à peu près tout ça tout en interprétant les photographies de Chanel. Donc ça a donné aussi bien des haïkus que des morceaux de texte, que des peut-être plus ou moins aussi des allusions à d'autres auteurs. Je pense notamment à Mathieu Gabory et Estelle Fay. Donc Estelle Fay qui a été aussi coup de cœur des Imaginales et Mathieu qui a un très très bel univers. Voilà, donc comment ça se passe après plus précisément je vous dirais qu'en fait c'est une grande facilité pour un auteur et de manière plus large d'avoir à sa disposition un univers. Donc ça a été le cas avec les photographies de Chanel, c'est aussi le cas par exemple dans l'univers de Jadis, qui est aussi une ville-univers, dans lequel le travail qui nous a été demandé, on a été 4 auteurs et un illustrateur, a été au départ de choisir un personnage à partir d'un tableau qu'avait créé Nicolas Fructus et d'imaginer l'histoire la plus fabuleuse qui soit à partir de ce tableau. Et ça a été un jeu littéraire et un jeu d'illustration, c'est-à-dire que en gros, à nos textes, Nicolas répondait par des dessins qu'on interprétait. Donc c'est vraiment tout ce dialogue que je trouve vraiment très intéressant à travailler, ne serait-ce parce que c'est collectif.
Merci Charlotte. Donc je vais donner la parole à Chanel, voilà, hein, qui en fin de compte, on est là pour toi. Et tout ce qu'on a pu vivre ensemble pendant des mois, puis des années finalement maintenant. Donc voilà, à toi.
Bonjour. Alors effectivement, on est arrivé ici, je ne connaissais pas du tout Épinal. Je n'étais jamais venu à Épinal. Je ne savais pas à quoi ressemblait Épinal. Et le principe, en plus on a eu beaucoup de chance parce que je crois savoir que la semaine juste avant il neigeait, il faisait très froid et donc je suis resté 10 jours. Donc toutes ces photos ont été faites en 10 jours, 10 jours pendant lesquels il a fait beau pas une goutte de pluie, pas que des beaux nuages, que des belles lumières. Quand je suis parti,
voilà, il pleuvait.
Il s'est mis à pleuvoir.
C'est l'organisation.
Voilà, donc on a eu ce qu'on a demandé. Donc effectivement,
c'est accueillant, hein, Épinal, il ne faut pas croire. Hein, c'est...
voilà, tout à fait. Le principe a été simple, c'est-à-dire que je joue les opportunistes, c'est-à-dire qu'on a fait environ 20 km par jour à pied, avec un sac de 10 kg, donc avec tout le matériel, les trépieds, tous les objectifs, trois appareils photo à 2 kg chacun.
On a même cassé un.
Oui, on en a même cassé un, oui. Et on a marché. Et on est repassé souvent aux mêmes endroits. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est la lumière. Alors la lumière, elle n'est pas toujours là. Quelquefois elle existe, quelquefois elle n'existe pas. Et quand elle n'existe pas, on fait autre chose. On fait une forme, une ligne, une géométrie. Ou quelquefois, c'est juste de la lumière. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une barre HLM. Et si le ciel est au rendez-vous, vous pouvez créer une image. Donc le principe, c'est d'être un opportuniste. Et de ne pas essayer de réfléchir. Plus on réfléchit, plus c'est long. Et moi, quand je réfléchis, je me plante. Donc on s'est promené. On est repassé plusieurs fois aux mêmes endroits. J'ai fait la ville. Et j'étais aussi aux alentours. Pour la situer. Pour ça que vous avez des photos de l'abbaye d'Autray. On a aussi recentré son passé militaire. Donc vous avez le fort du Guisonnier où l'association m'a ouvert les portes, où je suis resté 2 heures là-dedans. On a fait à peu près une trentaine de photos tout au pas de course. Mais le résultat est là. Il y a cette forme de pression qui fait que on réfléchit pas. Voilà. On fait de la photo. On fait de la photo. On fait de la photo. Et ce, pendant 10 jours. Donc, j'ai ramené au total 375 photos. Ah, on n'en a utilisé que 200. Donc, il en reste, qu'on pourra découvrir après diffusion du livre sur mon site, puisque je les mettrai en ligne. Et voilà. Donc, on a travaillé 2 jours, 2 nuits. Et on n'a pas beaucoup dormi, surtout moi. Parce qu'après, il faut développer les photos, car ce sont des négatifs numériques. Et au même titre qu'un négatif argentique, on le développe. Donc, ce n'est pas, vous ne venez pas avec une carte et on la vide. C'est, ça ne marche pas comme ça. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de photo. Mais grosso modo, derrière ça, il y a encore 20 jours de travail. Donc, on a travaillé d'arrache-pied parce qu'effectivement, Olivier me dit au mois de février, on fait un livre sur Épinal. Je le fais au mois de mars et il est imprimé au mois de mai. Je ne sais pas si vous voyez. Quoi. Donc, voilà, on est rentré après un bon repos bien mérité. Là, je suis en train de boucler celui de la ville de Tours et je pense avoir l'aval dans les tuyaux dans pas longtemps, n'est-ce pas Olivier? D'accord, bon.
Oui.
Je veux bien un compte. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir parce qu'effectivement cette ville, il reste du patrimoine, elle a été détruite plusieurs fois à certains endroits. Ce n'est pas si vilain qu'on le pense ou qu'on le croit, comme il le disait à juste titre. Vous, à force de regarder les choses, on ne les voit plus. Et moi, le fait de ne pas connaître tout ça, j'ai pu vous montrer des choses que vous voyez tous les jours et de vous les montrer différemment, sous d'autres couleurs. Et puis, on a fait, dans quelques chapitres, la BMI m'a mis à disposition des cartes postales anciennes. Alors là, pour le coup, c'est du montage, hein, via Photoshop. Et je me suis attelé à retourner au même endroit. Et en fait, on a superposé les deux vues. Celle d'hier et celle d'aujourd'hui. J'appelle ça le passé recomposé. Donc, vous avez quelques vues de la place des Vosges, la rue Léopold, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, voilà. J'ai après, si vous avez des questions, je veux bien répondre. Mais je vais éviter le cours de photo parce que sinon, il y en a pour des heures.
Merci.
Ce qui est fascinant dans le livre, pour l'avoir feuilleté et sans même avoir eu besoin de rentrer beaucoup dedans, c'est tout le travail, je dirais, de narration autour de l'image qu'on voit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une image qui a pris quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de revoir, qui l'a mise en lumière d'une certaine façon, ou qui nous a rappelé qu'à certains moments, il se passe quelque chose de magique, qu'on capture ou pas. Il y a aussi quelqu'un, Charlotte l'a fait, qui est capable à partir de là de... Je dirais de travailler en histoire. On sait que l'imaginaire, la littérature de l'imaginaire de ce festival, l'imaginaire est une littérature d'images avant d'être une littérature d'idées. C'est une littérature en général qui naît du choc de vision et d'envie à partir duquel on construit un discours, mais au début, on a une image. Et on se dit, tiens, voilà quelque chose de riche. Et je pense que ce festival a toujours été un festival à succès pour nous, les auteurs, un festival générateur d'idées, générateur d'envie, parce qu'il se situe dans un lieu, Épinal, qui est lui aussi porteur d'images, porteur d'idées, porteur d'envie. Et je le sais pour en avoir parlé avec tous mes camarades auteurs, Épinal est un endroit d'où on ramène des idées. C'est-à-dire que c'est fécondant comme endroit. Et je ne suis pas étonné que ce soit un endroit qui ait donné naissance à cette culture d'image. Les imagiers d'Épinal avaient bien choisi leur endroit, je pense.
Merci. Je voulais aussi rendre hommage à notre directeur éditorial. J'aurais bien voulu que Jacques le rencontre. On a quelqu'un qui est assez extraordinaire, qui a monté l'ouvrage, qui a travaillé sur Épinal, qui n'a pas arrêté de dire « je travaille d'un œil extérieur ». C'est pas Jacques. Donc voilà. Et qui, je pense que quand vous allez découvrir l'ouvrage, quand vous allez le lire, vous allez certainement apprendre plein de choses. Mais vous apprenez plein de choses d'un type qui en fin de compte, a dû venir à Épinal 4 fois dans sa vie, mais qui a fait une telle recherche et qui s'est tellement imprégné du sujet qu'à la fin, il mangeait Épinal, il vivait Épinal, il travaillait la nuit. On allait à 4 heures du matin, il était toujours là. Et il s'est imprégné. Donc c'est important et ça se sent dans les textes. Ça se sent. Donc il est important. Donc c'est pour ça que Jacques, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de différent, certainement ensemble. Mais bon, voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.
Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à des lieux, c'est d'essayer aussi de montrer non pas leur histoire, mais de montrer qu'ils ont changé de fonction quelquefois, plusieurs fois dans leur histoire. Vous parliez tout à l'heure du fort Duxonnier. Il se trouve que moi, j'ai pas mal travaillé sur ce sujet-là il y a quelques décennies, on va dire. Ça a été effectivement une fortification qui était en activité en 1914. Donc là, 100 ans après, on retrouve effectivement l'ouvrage. C'est un ouvrage qui a été en fonction aussi en 1940 et puis qui est tombé totalement en désuétude, où l'armée s'en est totalement désintéressée, et où, comme d'ailleurs ses autres ouvrages de part et d'autre, il est tombé en abandon. Et quand j'ai commencé à m'en occuper, ça devenait une véritable ruine, qui était pillée d'ailleurs par les ferrailleurs, etc., où j'avais porté plainte à la gendarmerie, donc il avait une autre vie. Et puis, il y a pratiquement 30 ans, une association l'a repris en main, comme d'autres associations ont repris en main d'autres ouvrages dans le même secteur, et ils ont commencé à y travailler tous les week-ends en vue de le faire visiter, donc dans un but d'histoire militaire, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est en fait un patrimoine touristique tout à fait important, puisqu'il reçoit quand même plusieurs milliers de visiteurs, renforcé par les autres associations qui sont nées à cet exemple-là, de chaque côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se promène dans ce secteur, et il y a un quatrième ouvrage qui a été dégagé depuis le mois de novembre, pas très loin. On a à la fois une vision du terrain tel qu'il était en 1914, quand on avait coupé les arbres qui masquaient, pour des raisons d'espionnage, ces ouvrages. Donc il est dans la position de combat d'août 1914. Mais c'est aussi aujourd'hui un lieu à la fois de souvenir, hein, bien sûr, pour les militaires qui ont travaillé et qui ont été dans ces ouvrages. Mais c'est aussi maintenant un but complètement touristique, c'est-à-dire que ça a totalement changé.
On a perdu la polyarcétique.
Ah oui, absolument. Et j'ai eu la même réflexion l'an dernier en faisant des photos sur les lieux de combat des Hauts-de-Vosges, par exemple, où là, on a des lieux de combat qui sont maintenant complètement dans la végétation, qui ont été, pour certains d'entre eux, très bien réaménagés en vue du centenaire, mais on est quand même en pleine nature maintenant. Et c'est la même chose, on a complètement changé à la fois d'échelle, et on a complètement changé de vision par rapport à ces ouvrages. Et j'ai aussi que sur une autre vie, c'est un simple exemple, je pense à ça parce qu'elle figure sur l'affiche des Imaginales, la tour chinoise d'Épinal. Alors voilà une tour qui était uniquement utilitaire il y a 2 siècles, parce que c'est un escalier, tombant sous la mode chinoise, parce que c'était la mode des chinoiseries à l'époque, longtemps négligé, même totalement négligé, jusqu'à son effondrement partiel il y a une trentaine d'années. Et puis, est négligé parce qu'on ne lui prêtait pas d'importance. C'était un ouvrage finalement contemporain qui n'avait pas vraiment d'importance, une espèce de folie. Jusqu'au moment où on s'aperçoit par des expositions, et en particulier il y a deux ans au musée Guimet à Paris, une exposition sur la Chine d'il y a 2000 ans, et je tombe sur une publicité sur cette exposition au musée Guimet, et je vois une tour qui ressemblait tout à fait à la tour chinoise d'Épinal. Alors bon, la fois suivante, alors à Paris, je vais au musée Guimet, je prends des photos. Effectivement, ce qui était un grenier à blé en Chine, la Chine du IIe siècle, est quasiment la copie conforme de la tour d'Épinal, y compris les balustrades en bois qui sont les mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a eu au XVIIIe siècle quelqu'un qui s'est baladé, soit un Anglais, soit un Français, qui s'est baladé en Chine, qui a fait des croquis très précis de ce qu'il voyait dans les parcs chinois, qui l'a ramené, et qu'un architecte au début du XIXe siècle a refait ça dans le cadre d'une ville qui s'appelle Épinal, avec une tour chinoise. C'est, enfin, voilà. Et aujourd'hui, qu'elle est restaurée, puisque c'était, il y a 30 ans, c'était une ruine, et Bernard connaît bien l'histoire là-dessus, ça a été une bagarre qui a duré 25 ans, et finalement, aujourd'hui, maintenant, on a tout oublié, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là, qu'elle a toujours existé, hein, ce qui n'est pas vrai, mais elle a une autre histoire. C'est toujours un escalier, mais qui ne sert plus qu'à un seul personnage et à ses invités, mais qui est aujourd'hui quelque chose d'autre. Et là, on peut aussi en faire un roman, puisque on a eu des personnages importants qui sont passés par là, comme Joséphine de Beauharnais, par exemple, ou Alfred de Musset, qui sont passés par cette tour, et où on pourrait écrire autour de ça toute une série de choses.
Oui, ce qu'on oublie dans une ville comme Épinal, parce qu'on y habite et parce que, d'une certaine façon, on est là, c'est qu'avant d'être là, des générations nous ont précédés, ont vécu leurs propres histoires, et ces histoires-là ont imprégné les pierres. Et on a tendance à se dire, cette chose-là qui a toujours été là, ou même qui tombe en ruine, on oublie que les gens ont vécu, ils ont aimé, ils ont vécu des choses tragiques, ils se sont battus, et ils ont, d'une certaine façon, regardé la ville avec le même amour que nous, mais des siècles plus tôt. Et moi, j'habite Toulouse, c'est pas du tout le même style de ville qu'Épinal, mais c'est aussi le genre de ville qui a qui donne la même impression de support. On a eu à un moment donné une bagarre absolument phénoménale quand on a voulu remettre le clocher de la basilique de Saint-Cernin qui avait été refaite par Viollet-le-Duc, qui était devenu un clocher à 8 pans, qu'on a voulu en faire un clocher à 7 pans pour reprendre ce qui était l'origine des choses. Et les gens se sont battus en disant « Désolé, maintenant il est comme ça et on aime son harmonie. » Et les gens qui étaient les tenants de l'historique disaient « Il faut le remettre en état. » Et on s'est aperçu qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui ont dit « mon grand-père disait, mon arrière-grand-père disait » et on a fait appel à toutes les générations précédentes pour parler de ce qu'était ce livre. Et à titre personnel, moi j'ai vécu une histoire à Toulouse où j'avais 14 ou 15 ans, je me promenais sur le parvis de la basilique Saint-Cernin où a lieu chaque dimanche une espèce d'immense braderie. Et j'expliquais à mon père que je venais de vivre un chagrin d'amour et que donc ma vie était totalement foutue, j'avais 15 ans évidemment, et que comment était-ce possible, enfin que comment peut-on surmonter ce genre de choses absolument atroces. Et mon père, qui était un individu patient jusqu'à un certain point, m'a expliqué, un, que je le faisais chier, et puis il m'a dit, j'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que ton ancêtre, il y a 700 ans de ça, au moment où la basilique commençait à peine à sortir de terre, a dit le même genre de conneries à son père, qui n'avait pas la réponse non plus, mais lui a dû la trouver puisque tu es là. Donc je n'ai pas la réponse, mais je sais qu'elle existe, parce que sinon tu ne serais pas là. Et c'est la seule chose que les vieilles pierres nous apprennent quand je me promène place des Vosges, c'est que quoi que ce soit que je puisse dire et faire, je laisserai une trace, mais cette trace se superpose à d'autres traces antérieures qui me rappellent qu'on sait comment vivre.
Alors, effectivement, il y a des villes qui sont... qui réveille des échos en nous. Bon, il y a Venise pour moi, mais en fait, j'ai envie de revenir sur plusieurs photographies que Chanel a prises du château d'Épinal, qui est en fait que j'ai imaginé. Enfin, c'est assez bizarre ce qui s'est passé quand j'ai vu vos photos. C'est que bon, la première fois que je suis allée au château d'Épinal, je me suis vue à cheval. Je suis cavalière, donc forcément, de toute façon, ça éveille des choses. Et j'ai un fantasme qui est effectivement de monter jusqu'au château d'Épinal, à cheval, lentement, sur un gros destrier de guerre. Et Chanel, donc toutes les photos que j'ai vues n'ont pas été effectivement retenues pour l'exposition, mais a exactement retranscrit ce que je ressentais à l'instant où j'ai monté ce chemin. Donc j'ai essayé à mon tour d'interpréter les photographies de Chanel en retranscrivant ce que j'avais vu en visitant le château. Voilà, c'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des villes, il y a des monuments qui pour moi sont des correspondances entre différents univers, que ce soit des univers imaginaires, des univers qui nous rattachent au passé ou qui nous rattachent aussi à nous-mêmes.
D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'expo, à découvrir l'expo. Il y en a une à la mairie et vous en avez une au parc du cours, ici présente. Hein. Donc, venez la découvrir. Avez-vous des questions ? Non ? Une petite ? Non ?
Est-ce qu'on pourrait refaire un livre ? Tous les auteurs qui ont contribué à illustrer les photos, alors, c'est le verbe un peu bizarre, mais ce sont tous des auteurs plutôt sur de la fantaisie imaginaire ou est-ce qu'il y a des auteurs qui sont plus spécialisés dans d'autres domaines ?
En concernant l'exposition, il n'y a que moi. Et je crois que dans l'ouvrage, il y a pas mal de citations qui sont issues de romanciers ou d'historiens.
C'est ça, c'est ça. Et il y a un auteur qui s'appelle Pierre Cléry, d'accord ? C'est un monsieur qu'on a extrêmement mal à avoir, hein, qui travaille beaucoup, et qui est enfin, extrêmement discret, et qui nous fait un travail formidable, mais il n'aime pas se faire voir, il n'aime pas... donc voilà, on a la chance de le connaître avec Chanel, hein, et de le voir travailler régulièrement, mais c'est vrai qu'il a fait un travail formidable de recherche et d'écrit aussi, parce que c'est vrai que... Voilà, donc vraiment à découvrir, on a même travaillé sur le hockey, quoi. Vous voyez, on a fait un travail sur le hockey d'Épinal, parce que ça, ce qui est aussi à un moment, c'est quand on fait un ouvrage, il faut qu'on puisse donner la passion de l'ouvrage à tout le monde. D'accord, à tout le monde, je dis bien, il n'y a pas que les historiens, il n'y a pas que les intellectuels, il y a aussi nous, c'est-à-dire plein de gens qui ont envie de découvrir autre chose, qui ont envie de découvrir leur ville par différents biais finalement. Hein. Donc si c'est le hockey, tant mieux. Donc voilà, et c'est ça qu'on a voulu faire. Hein. Voilà, c'est très important pour nous. Voilà. Jacques, vous avez un petit mot à dire ?
À propos du hockey ?
Oui.
Ah ben, c'est effectivement actuellement... le sport qui est le plus en évidence, on a des sports les plus en évidence, c'est Épinal. Mais je crois qu'il faut assister à un match parce que tous ces endroits justement de jeu, c'est la même chose si on regarde un amphithéâtre gallo-romain. Ça ne vaut pas seulement par une architecture, mais ça vaut quand c'est rempli, quand il y a du monde. Hein, si on va au Stade de France le visiter vide, ça ne marche pas. Si on y va lors d'une grande compétition, c'est là que ça fonctionne. Hein, je crois que c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Et le hockey en particulier suscite des passions tout à fait extraordinaires. On a des gens très calmes pendant la semaine qui se déchaînent pendant le week-end. Et c'est quelque chose de tout à fait impressionnant, à tel point qu'on va construire une nouvelle tribune d'ailleurs. On va finir par faire le quadrilatère complet, comme au stade de Gap, ça va être à peu près pareil. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et je crois que c'est vrai que toutes ces constructions, on le disait tout à l'heure, quand on va par exemple au château d'Épinal, le château d'Épinal, quand on a commencé à y travailler, à le dégager archéologiquement, à partir de 1984, en 89, j'ai pris la décision, c'était au mois de mai, de couper des arbres, parce que c'était une forêt. Donc, il avait une vie à part. Il avait, on va dire, une vie amoureuse. Là, avec des forêts, des taillis, etc., etc. On voyait bien sur les arbres avec des cœurs qui étaient gravés dessus. Et il y avait donc une population tout à fait spécifique qui était dans ces ruines, qui était parfois peu rassurante pour un certain nombre de personnes. Quand en mai 89, j'ai pris la décision de faire couper un certain nombre d'arbres pour protéger d'ailleurs les archéologues, parce qu'on vivait avec des arbres qui risquaient de se déraciner, il y a quand même des gens dans la ville, des spinaliens de souche, qui m'ont demandé ce qu'on avait construit là-haut. Donc ça veut dire qu'il avait véritablement une vie mystérieuse dans les arbres, et qu'en venant au soleil, il a commencé à avoir une autre vie. Et selon les jours, selon les saisons, effectivement, c'est un endroit qui peut être très accueillant, très verdoyant, comme en ce moment, par exemple, avec le soleil. Mais à d'autres moments, en hiver, par exemple, quand il y a du brouillard, le soir, c'est une silhouette un peu inquiétante qui se dessine, et on peut lui imaginer tout à fait d'autres fonctions que le tourisme autre. C'est assez particulier. Moi qui habite juste en face, j'habite au-dessus là-bas, donc je le vois dans mes perspectives depuis chez moi, et mon voisin aussi là-bas, et c'est vrai que quelquefois il prend des formes, par exemple en hiver avec la neige, c'est encore autre chose. Et on le rebâtit assez facilement. C'est-à-dire qu'on imagine assez facilement, nourri de récits du Moyen-Âge ou de bandes dessinées du Moyen-Âge. Hein, le Chevalier Blanc, par exemple, moi qui ai bercé ma jeunesse, je le vois parfaitement là-dedans.
Et puis des fantômes.
Oui, absolument.
Des fantômes, oui, oui. Même quelques vampires pourraient s'y nicher le soir.
Tout à fait. Il y a quelquefois des vols d'oiseaux au-dessus, des vols de corneilles en masse. C'est parfois un peu inquiétant.
C'est rassurant.
Merci Jacques. Vous avez d'autres questions ? Non ? Bon, je voudrais remercier Charlotte pour ces textes aussi qui sont très sensibles. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, Chanel, tu as un petit mot à ajouter ?
Non.
Non, non. Comme ça, c'est clair.
Non.
Charlotte ?
Non, simplement, si je serais... oui.
Moi, je voudrais juste inviter les personnes qui sont là à aller voir votre travail. Et notamment, moi, j'ai été très, très sensible au regard d'animaux que vous avez fait. Alors, on parle dans un domaine complètement différent, mais je trouve que c'est vraiment magnifique.
Merci.
Donc, voilà.
De même, je vous renvoie à l'appareil. J'ai trouvé les textes. J'ai trouvé que les textes se mariaient assez bien aux photos, car, comme elle dit si bien, c'est une interprétation d'interprétation. Mais non, ça fait un tout, parce que c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Mais je le dis uniquement avec de l'image et de la lumière. Je le dis sans mots. Et souvent, c'est Épinal l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on va faire appel à votre imaginaire. Et votre imaginaire, il vous est propre. C'est celui qui s'est construit grâce à votre propre expérience. Et si moi, une de mes photos peut déclencher chez vous quelque chose, pari gagné. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de... Voilà. C'est juste ça. C'est tout. À partir de là, effectivement, il y a eu un travail de texte et tout ça s'est parfaitement marié. Mais à l'origine, je ne le conçois pas et je ne le pense pas et je ne le fais pas en fonction d'eux. Je laisse aller les choses et souvent les gens me disent « cette photo, elle évoque ça pour moi ». Eh bien, tant mieux. Voilà.
Merci. Donc, ben voilà, vous avez le livre devant vous et puis l'imaginaire. Chanel est présent pour 4 jours, 3 maintenant, pour vous signer une petite autographe. Ça a été avec un grand plaisir qu'on vous a accueilli. Voilà, merci beaucoup en tout cas.